L'Église est plutôt apparemment divisée, mais nous avons à cœur, nous avons demandé à notre frère Joël Point de venir nous parler de l'Église telle que Dieu la voit, telle que Christ la voit, telle que Christ l'a bâtie. Nous savons que les hommes confient à la responsabilité de l'homme, elle est pleine de rides, de taches. Mais le Seigneur Jésus a aimé l'Assemblée, et dans l'Évangile selon Matthieu, elle est pour lui cette perle de grand prix. Une perle, pas beaucoup, une perle, pas un collier, une perle. Elle est l'épouse, Christ a aimé l'Assemblée et s'est donné lui-même pour elle. Elle est son épouse, une seule. Eh bien, nous désirons que, à travers la parole, nous puissions voir l'Église telle que le Seigneur l'a fait, non pas vue du côté de la terre, de la responsabilité de l'homme, mais en élevant nos regards telle que Dieu l'a faite. L'homme n'y est pour rien, c'est pas l'homme qui fait l'Église, c'est le Seigneur qui l'a bâti. Je bâtirai mon assemblée. Comme pour notre salut, ce n'est pas nous qui construisons, qui bâtissons par nos œuvres ce que nous faisons, notre salut, c'est Dieu qui nous l'offre. Que le Seigneur fasse que nous puissions la voir ainsi. Et on a donc demandé à Joël Point, qui est un frère qui vient d'Antony, il exerce un ministère de présentation, d'enseignement de la parole dans son assemblée locale à Antony, dans diverses assemblées ou dans des réunions d'études ou des conférences. Et nous demandons maintenant au Seigneur qu'il le conduise par son esprit pour nous donner à chacun ce dont nous avons besoin pour que cela soit pratique. Cette unité de l'Église, donc c'est quelque chose vu du ciel de Dieu, elle est faite. Mais comment pouvons-nous la vivre pratiquement, concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et comment la vivre aujourd'hui?
Merci Edouard pour ces mots d'introduction. Et bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de saluer. C'est avec joie que je me trouve là avec vous pour ouvrir l'Écriture et pour aborder ce sujet. Et pour cela, on va s'appuyer sur une petite aide audiovisuelle qui permettra peut-être de mieux saisir et mieux retenir. Donc le sujet qui m'a été demandé de traiter, c'est l'unité du corps de Christ, comment la réaliser, comment la vivre aujourd'hui. Et si j'ai bien compris, vous souhaitez que ce soit organisé en deux parties avec une petite pause boisson entre les deux parties d'environ 45 minutes. Et donc dans la première partie, après une brève introduction, nous allons essentiellement considérer les textes qui nous parlent de l'Église sous cette forme du corps du Christ, avant d'en tirer quelques implications. Et puis dans une deuxième partie, donc après la pause, nous regarderons ce qu'est l'unité du corps localement et comment aussi peut se vivre l'unité du corps entre Églises. Alors quand on voit un plan comme cela, on se dit « bon, il va falloir patienter après la première présentation pour qu'enfin on rentre dans le corps du sujet, dans les choses concrètes et pratiques. Mais, comme l'a dit Jean-Pierre dans sa prière, et j'aime bien cette expression, nous avons besoin de l'Écriture. De sorte que, dans cette première partie où nous pencherons sur les textes de l'Écriture même qui nous parlent du corps de Christ, cette première partie n'est pas simplement à considérer comme un préalable nécessaire, mais parfois qu'on peut juger un peu long, mais c'est le cœur. Parce que si on ne revient pas à l'Écriture, à la parole de Dieu, eh bien tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut dire, finalement, ce ne sont que des bavardages. Donc, je vous invite à prendre patience et à ce qu'on puisse revoir des textes qui nous sont connus, mais qu'on va essayer de revisiter encore une fois pour saisir ce que la parole de Dieu, ce que l'Esprit-Saint, à travers les écrivains inspirés du Nouveau Testament, ont voulu nous faire saisir de l'Église sous cet aspect du corps de Christ. Avant, en introduction, j'aimerais poser quatre principes de méthode. Pourquoi faire cette petite introduction herméneutique au début de cet exposé? C'est que, quand il s'agit de l'Église, Eh bien, on se retrouve devant un sujet qui est un peu particulier. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qu'on a mis en pratique nécessairement, puisque la façon dont nous nous réunissons, dont nous vivons les uns et les autres dans nos diverses églises, la vie d'église, eh bien, fait que ce sujet-là comporte tout un élément de pratique, de manière de faire, oserais-je dire de tradition, qui sont là présents et qui parfois nous tiennent extrêmement à cœur parce que c'est notre culture propre, celle dans laquelle nous avons été élevés, celle peut-être que nous avons rejetée pour en prendre une autre, que sais-je, mais enfin c'est notre culture. De sorte que quand on aborde ce sujet-là, on peut le prendre de deux bouts, soit on peut partir de notre pratique et chercher les textes qui vraiment supportent notre pratique, et parfois extraire le demi-verset qui appuiera notre façon particulière de voir, ou bien on peut essayer, et c'est ce que je vais essayer de faire avec la limite de mes capacités, mais on peut essayer de prendre au contraire un ensemble de textes bibliques et essayer de voir comment émerge de cet ensemble de textes bibliques la pensée de Dieu sur la façon dont nous pouvons et nous sommes appelés à vivre l'Église comme corps de Christ. Et ensuite, cela nous conduira à valider ou corriger notre pratique. Et je crois qu'il faut se laisser la possibilité, au moins intellectuellement, ne pas se fermer à l'idée de, peut-être, il y a des choses qu'on doit revoir. Peut-être, il y a des interrogations qu'il faut qu'on ait ensemble. Vous savez, nous sommes des héritiers de la Réforme, et il y avait une formule que les réformateurs avaient, réformer est toujours en train de se réformer. Et je crois que cela, nous avons besoin de le garder. Un deuxième point de méthode, c'est la pyramide. Alors ceux qui ont fait un peu de physique savent qu'une pyramide, il y a deux points d'équilibre. Il y a un point d'équilibre instable et un point d'équilibre stable dans une pyramide régulière. Point d'équilibre instable, c'est sur la pointe. Le point d'équilibre stable, c'est sur la base. Alors, parfois, je me demande si on ne fait pas un petit peu d'équilibre instable. C'est-à-dire qu'on prend un texte, ce texte-là, on le chérit, on en fait l'alpha et l'oméga de la façon dont on se réunit, dont on voit la vie d'Église, et on bâtit dessus tout un tas de théories, etc. Mais l'équilibre est quelque peu instable. Ou une autre façon, c'est de prendre plusieurs textes concordants et complémentaires, avec une considération soigneuse du contexte et d'essayer de construire un principe biblique qui demeure, c'est que par la bouche de deux ou trois témoins, toute vérité sera établie. Et donc je pense que pour les points importants de la doctrine biblique, Dieu a permis que par un, deux, trois textes, deux, trois, quatre, même parfois plus textes, eh bien les choses soient établies et puissent nous donner une bonne stabilité. Un troisième principe, un troisième point de méthode, est-ce qu'on va partir d'un enseignement systématique ou d'illustration ? Il me semble important, quand on lit l'Écriture, de tenir compte d'une grille de lecture qui a été celle d'un certain nombre de commentateurs bibliques, qu'on appelle les dispensations. Cette grille de lecture s'appuie, me semble-t-il, sur un certain nombre de textes bibliques clairs, mais malheureusement se trouve parfois un peu décriée. Et pourquoi se trouve-t-elle parfois un peu décriée ? C'est qu'on a voulu parfois la pousser trop loin et forcer à une logique trop cartésienne des choses qui, dans la parole de Dieu, ont un flou nécessaire. Pourquoi nécessaire ? Parce que l'Esprit de Dieu nous conduit dans des domaines qui sont plus complexes que ce que notre esprit peut en saisir, et ce qui fait qu'on ne peut pas tout mettre dans des petites boîtes. De sorte qu'on a fait beaucoup de tort, à mon sens, à la doctrine, à la vision dispensationaliste, en l'exagérant vraiment par trop. Cela étant, il ne faut pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain, et ça reste quand même une lecture intéressante et importante, en particulier sur ce sujet de l'Église, et nous y reviendrons. Donc il est nécessaire de tenir compte des dispensations, de la progression de la révélation. Dieu se révèle de la Genèse à l'Apocalypse, mais progressivement, il amène une lumière toujours croissante sur la façon dont il veut se révéler à l'homme, et en particulier avec le nouveau, la nouveauté, l'irruption du royaume de Dieu par la venue du Seigneur Jésus sur la terre, quand Dieu s'est fait homme, d'où le point d'attache du Nouveau Testament qui introduit un ordre de choses nouveau. De sorte que quand on vient au sujet de l'Église, et nous le justifierons par quelques textes un peu plus tard, l'Église est un mystère dans l'Ancien Testament. De sorte que nous n'allons pas chercher, pour valider notre pratique, un fondement qui ne reposerait que sur des illustrations vétérotestamentaires, sans avoir un support suffisant dans des textes doctrinaux, de principes, de bases claires dans le Nouveau Testament. Ça me semble être très important. L'Ancien Testament va nous illustrer un certain nombre de principes du Nouveau, mais ne renversons pas, en particulier quand il s'agit de ce sujet de l'Église, mystère caché dans l'Ancien Testament, comme nous le trouvons dans plusieurs textes, Romains 16, Éphésiens 3, nous aurons l'occasion d'en dire un mot. Et puis le dernier point, et c'est peut-être celui qui me tient le plus à cœur, c'est que sur ce sujet de l'Église, je souhaiterais vraiment, et c'est vraiment ma prière au Seigneur, que l'approche puisse être paisible, sans esprit pamphlétaire. Que l'unité de ton Église est belle. Je ne savais pas, Édouard, que tu choisirais ce cantique pour commencer notre conférence. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, ce que l'Église donne à voir et ce qu'elle a donné à voir depuis 20 siècles, c'est plutôt une approche de division, de conflit, de combat, etc., qu'une approche paisible. Et je retiens pour ma part fortement ce conseil de Paul à Timothée, dans la deuxième épître à Timothée, alors même que c'était une période difficile, où il y avait des doctrines erronées qui commençaient à se répandre au sein même des églises que Paul avait formées. Que dit Paul à Timothée ? Oh, laisse couler ? Non. Est-ce qu'il dit « prends le glaive » ? Non. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Évite les questions folles et insensées, sachant qu'elles engendrent des contestations, et il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support, enseignant avec douceur les opposants. Ce texte me semble être clé, en particulier dans le contexte ecclésiastique dans lequel nous vivons en ce début de XXIe siècle, un contexte éclaté, avec des dissensions, mais nous pouvons néanmoins, me semble-t-il, aborder ces sujets de façon paisible, sans être là pour ferrailler, pour essayer de gagner une guerre ou une lutte, mais au contraire, pour essayer d'avoir du support, de la douceur, en enseignant ce que la parole de Dieu, ce que nous pensons avoir compris de la parole de Dieu. Et cela, me semble-t-il, nous aidera à éviter les conflits, parce que nous avons ces textes qui sont très forts dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Si vous vous mordez, vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez pas consumés l'un par l'autre. Et vous ne croyez pas que parfois c'est arrivé qu'on se morde et qu'on se dévore sur ces questions d'Église, bien trop souvent ? Alors Paul dit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. » Et quelles sont ces œuvres de la chair, au premier rang desquelles ? Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies. On est frappé. Nous, si on avait eu à faire une liste des œuvres de la chair, est-ce que vous pensez qu'on aurait mis 8 termes qui sont peu ou prou liés à notre sujet de la destruction de l'unité de l'Église ? Certainement pas. On aurait plutôt développé, des péchés d'ordre sexuel, ils y sont. Vous voyez l'emphase que met Paul sur ces éléments-là, de sorte que nous allons essayer d'avoir une approche qui vise à rapprocher autant que possible. Autant que possible. Ce n'est pas parfois possible d'aller plus loin. Mais comme le dit Paul dans ce très beau texte de Philippiens 3, dans les choses auxquelles nous sommes parvenus, marchons dans le même sentier. Et si quelqu'un a un autre sentiment, Dieu le révélera. Ce qui est magnifique, c'est que nous sommes tous les uns et les autres en face de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la parole. Et Dieu nous révèle dans sa parole. Alors, il y a peut-être des choses qu'il a révélées à l'un, pas encore à l'autre. Et vous savez, quand on a découvert quelque chose dans la parole de Dieu, on aimerait que tout le monde l'ait découvert en même temps que nous. Et on oublie qu'il nous a fallu parfois des décennies avant que quelque chose qui était écrit et qui nous semble aujourd'hui limpide comme du cristal, nous apparaisse comme tel, et que Dieu a dû travailler dans notre cœur pour nous faire avancer et progresser jusqu'à cet endroit-là. Une fois posés ces quatre points de méthode, venons-en maintenant au texte. Tout d'abord, par ce graphique, oui, alors là, j'ai pas bien choisi les couleurs parce que ça paraît très bien sur mon écran, mais c'est pas forcément top ici. Il y a différentes images que Dieu utilise pour nous parler de son Église, l'Église de Jésus-Christ, ou l'Assemblée de Dieu. Ces différentes images sont là pour nous aider à comprendre. Et alors là, je les ai regroupées en sept catégories. C'est un peu, peut-être un peu artificiel, on aime bien trouver parfois un chiffre 7, ça fait plaisir. Donc on trouve une image de l'Église et de Jésus-Christ sous la forme d'une épouse ou d'une fiancée, de la famille de Dieu, du troupeau dont le Seigneur est le berger, d'un peuple ou d'une nation, le peuple de Dieu, de la cité ou de la ville, de la maison ou du temple, et puis du corps humain. Alors ça n'a pas... Je ne sais pas si vous arrivez à le discerner, mais pour la maison et le temple et pour le corps humain, j'ai mis plusieurs petits ronds successifs. Pourquoi ? Parce que ces images-là sont sans doute les plus développées dans le Nouveau Testament et elles se présentent parfois sous des angles un peu différents. Nous aurons l'occasion d'y revenir pour ce qui concerne le corps humain, mais je le signale également pour le temple, puisque c'est également le cas. Donc, comme on le verra, il y a des images qui se complètent mais qui sont un petit peu différentes les unes des autres. Des images. Ce sont des images, mais attention, ce n'est pas la réalité elle-même. J'aime bien l'expression de Paul en 2 Corinthiens 11, verset 2. Il va se présenter, Paul a annoncé l'Évangile de façon à ce que Christ se présente comme une vierge chaste. Et en Éphésiens 5, verset 32, il est dit « Ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. » Paul va présenter le couple comme reflet terrestre de la réalité céleste, mais ça ne reste qu'un reflet. De sorte que les images sont nécessaires, mais elles n'englobent pas tout ce qu'est l'Église. Pourquoi les images sont-elles nécessaires ? Parce que sur la Terre, nous sommes avec des capacités qui sont plus limitées que celles que nous aurons quand nous serons dans le ciel. Et nous avons besoin, pour mieux saisir des réalités spirituelles, d'avoir des éléments tangibles et perceptibles par nos sens, ou en tout cas qui nous rappellent des choses perceptibles par nos sens, pour nous raccrocher et pour nous permettre de saisir ce qui sinon dépasserait notre entendement, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que les yeux n'ont pas vu, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et l'Église en fait certainement partie. Donc nous avons besoin de ces symboles, de ces images, de ces illustrations qui sont adaptées à nos capacités et à nos facultés actuelles et qui nous permettent de cerner vraiment ce qu'est au fond la réalité spirituelle qui de toute façon nous dépasse. Alors ce qui est très important de noter, c'est que ce sont des images complémentaires. Et ça, j'aimerais insister un peu là-dessus à propos de ce sujet du corps de Christ. Pourquoi ? Parce que parfois j'ai l'impression que l'Église, si je reviens en arrière sur mon graphique, l'Église de Jésus-Christ est vue presque exclusivement sous ce prisme du corps humain, de l'image du corps humain. L'Église, le corps de Christ. Alors on va mettre un grand C, on va parler du corps de Christ presque comme si on parlait de l'Église. C'est une des images principales, encore une fois, et c'est bien pour cela qu'on va y passer tout le temps de cette conférence, mais ça n'en est qu'une parmi les autres. Et il y en a d'autres qui sont intéressantes et importantes. Juste une en passant, par exemple, l'image du peuple, de la nation. Elle est très importante parce que cette image de peuple ou de nation va nous donner une continuité avec le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Continuité qu'on n'a pas de la même manière quand on regarde l'Église comme corps de Christ. Vous voyez combien on a besoin de ces différentes images qui se complémentent les unes les autres pour nous permettre de saisir qu'est-ce que c'est que vraiment l'Église de Jésus-Christ ? Nous attaquons maintenant l'ensemble des textes qui nous parlent de l'Église comme corps de Christ. J'ai mis les références en gros, vous devez pouvoir les lire. J'ai même tapé aussi les textes, ce qui vous permet de ne pas les chercher dans les Bibles, dans votre Bible, mais c'est quand même utile aussi de les chercher dans la Bible, ne serait-ce que pour mémoriser, pour ceux du moins qui ont une mémoire visuelle, l'emplacement des textes, et mieux pouvoir les retrouver. Donc il y a toute une série de textes que l'on va trouver, essentiellement dans les épîtres de Paul, qui explicitement parlent de l'Église comme le corps. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on les passe en revue, on va essayer de les revoir à peu près tous, et qu'on essaye à chaque fois d'extraire les points liés directement au contexte, bien entendu, sur lesquels Paul insiste et qui permettent de faire la liaison entre l'Église vue comme corps de Christ et ce que ça signifie. Prenons les deux premiers d'entre eux, par lesquels il me semble qu'il faut commencer. Éphésiens 1, versets 22 et 23 nous dit « Il a assujetti toute chose sous ses pieds et l'a donné pour être chef ou tête sur toute chose à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Colossiens 1, versets 18 et 19 nous dit « Il est le chef du corps de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il tienne, lui, la première place. » Car en lui, toute la plénitude s'est plu à habiter. Que vont nous présenter ces textes de Éphésiens 1 et Colossiens 1? La suprématie de Jésus-Christ. On voit hein, cette domination sur toute chose. Et sa suprématie de créateur, nous le voyons en particulier dans le texte de Colossiens, se double de sa suprématie de rédempteur, le premier-né de la création, le premier-né d'entre les morts. Vis-à-vis de l'Église, sa suprématie se montre par sa place de chef. C'est pour ça qu'il est le chef du corps, c'est-à-dire de l'Assemblée. De l'Assemblée, on pourrait le traduire ainsi. Qui est son corps, l'Assemblée qui est son corps. Donc, comme fils de Dieu, Jésus est la plénitude incarnée. Colossiens dit bien, toute la plénitude s'est plus à habiter en lui. Mais néanmoins, comme fils de l'homme ressuscité, Jésus s'associe et associe l'Église à sa propre plénitude. D'où cette expression un peu mystérieuse, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Comment peut-il y avoir une plénitude alors que déjà Jésus remplit toutes choses? C'est un peu un mystère. Et ici, dans ces deux textes-là, il semble que le corps désigne l'ensemble de tous les chrétiens de tous les temps qui, un jour, formeront cette plénitude de Jésus-Christ ressuscité, de sorte qu'on peut même oser aller jusqu'à dire, même s'il y a d'autres interprétations possibles d'Éphésiens 1, que Jésus ne serait pas vraiment totalement complet s'il n'y avait pas cette Église qui lui soit associée. Et donc, l'image du corps est ici associée à la domination universelle de Christ. Deuxième texte qui nous parle du corps de Christ, Éphésiens 2, versets 14 à 18. C'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un, afin qu'il créa les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau en faisant la paix, et qu'il les réconcilia tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle l'inimitié. Dans ce texte d'Éphésiens 2, Paul va introduire l'homme nouveau. Qu'est-ce que c'est que l'homme nouveau, selon Dieu? C'est un homme formé d'une tête et d'un corps. Et dans l'Épître aux Éphésiens, la tête c'est Christ glorifié, le corps c'est son Église. De sorte que on peut aller jusqu'à dire, là encore, que toute l'Église est nécessaire pour montrer l'homme nouveau. Et Paul insiste bien dans ce texte que cet homme nouveau, il est formé non pas simplement de personnes issues que du peuple juif ou de personnes issues que des païens, des grecs, mais il est formé de ceux qui auparavant étaient ennemis les uns des autres, mais maintenant sont réunis pour former cet homme nouveau, ce prototype de la nouvelle humanité qui ne peut être complet que s'il est formé de l'ensemble de tous les chrétiens. Et de sorte que ça va nous donner une illustration pratique immédiate, c'est que dans l'Église de Jésus-Christ vu comme corps, il ne peut pas y avoir de discrimination d'origine et l'unité est absolue. Un autre texte aussi qui va corroborer ces mêmes points se trouve en Colossiens 1, versets 24 à 27, où Paul dit qu'il se réjouit dans ses souffrances pour les Colossiens, et ce qui manque aux souffrances de Christ, il l'achève en sa chair pour son corps, qui est l'Église. « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, dit-il, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Dans la terminologie paulinienne, un mystère, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas découvert, c'est quelque chose qui était inconnu auparavant et qui est révélée à un cercle d'initiés. C'était le sens de mystère dans la Grèce antique. Et ce mystère-là, c'est quoi? C'est que, en fait, Dieu a créé, à la suite de la mort et de l'ascension de Jésus-Christ, et de la descente du Saint-Esprit, il a créé quelque chose de nouveau, qui n'était pas connu avant, qui est l'Église, le corps. De sorte que, il me semble qu'à partir de ces textes-là, on peut affirmer qu'on ne trouve pas l'Église, le corps, directement dans l'Ancien Testament. Et donc, de ce point de vue-là, l'Église comme corps sera un facteur de rupture entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Église, vue comme je le disais, comme peuple ou comme troupeau, là, c'est le contraire. On aura des facteurs de continuité. Et ça, c'est toujours très important dans la Bible, de savoir quels sont les facteurs de discontinuité entre l'Ancien et le Nouveau, et quels sont au contraire les facteurs de continuité qui relient l'ensemble de la révélation. Et il y a les deux. La proclamation de ce qu'est l'Église peut être source de souffrance. C'est ce que vivait Paul, puisqu'il parle de ce qui manque aux souffrances de Christ. Serait-ce à dire que l'œuvre de Christ à la croix n'est pas suffisante? Non. Mais que pour que cette œuvre de Christ soit connue par des hommes et des femmes, eh bien, il fallait que le prédicateur aille ici et là, et il le faisait en souffrance, à la fois dans l'évangélisation, mais aussi dans l'enseignement qui n'était pas toujours reçu. De sorte qu'on peut dire que l'Église est à la fois un corps étranger, mais c'est un corps aussi qui est immergé dans son temps. Un autre texte sur lequel je ne vais pas m'attarder, c'est l'analogie qui est faite et qui est développée dans Éphésiens 5, dans les versets 22 à 32, entre la relation homme-femme, dans le cadre du couple, et la relation entre Christ et l'Église. J'ai déjà cité ce verset 32 qui nous rappelle que ce mystère est grand parce que Paul parle relativement à Christ et à l'Assemblée. Et juste pour dire, c'est que, en fait, c'est pas Christ et l'Assemblée qui sont à l'image de ce qu'est le couple humain, c'est l'inverse. C'est bien le couple humain qui est le reflet, en deux dimensions, si je peux dire, de la réalité qui serait en trois dimensions de Christ et de l'Église. C'est à cette image-là que nous devons nous comporter en tant que couple humain. Et on a ces parallèles que j'ai essayé de faire ressortir par des couleurs en jaune un petit peu différentes entre ce qu'est Christ vis-à-vis de l'Assemblée et ce que les maris doivent être vis-à-vis des femmes. Je retire ces deux expressions. Il est le sauveur du corps, de l'Église et de notre corps physique, et nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os, et cela nous implique tous les soins que l'époux prend de son épouse de l'Église. Et on a ce télescopage de ces deux images dans ce texte-là entre l'Église vue comme épouse et l'Église vue comme corps de Christ. Un texte peut-être un des plus importants sur ce sujet du corps de Christ se trouve en Éphésiens 4, versets 1 à 6. On va les lire en entier. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité, douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. » Deux unités sont rapprochées par Paul ici. Au verset 3, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans les versets 4 à 6, l'unité du corps, de l'esprit, de l'appel, etc. Et donc, l'unité du corps est très liée à celle de l'esprit. Et c'est bien pour ça qu'on peut chanter que l'unité de ton Église est belle, surtout avant de parler de l'Église comme le corps de Christ. Ce n'est pas une vision mystique très théorique, c'est une réalité. L'unité du corps, elle est faite, elle est indestructible. De la même manière que je ne peux pas dissocier mon bras de mon tronc, de la même manière, l'unité du corps de Jésus-Christ existe, qu'on le veuille ou non, quoi qu'en fassent les hommes. Elle est faite indestructible et éternelle. Mais ce que nous sommes appelés à faire, ce n'est pas à faire cette unité, c'est à la garder. Vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et alors, quelles sont les conditions qui nous sont données? Vous remarquerez que, aux surprises, ce ne sont pas des conditions doctrinales, ce sont des conditions d'abord morales. Est-ce à dire que les conditions doctrinales n'ont rien à voir? Certainement pas, puisqu'il est en particulier mentionné la seule foi, et il me semble qu'on peut prendre foi ici au sens de credo, si on veut, de l'ensemble de la confession de foi. Donc l'unité, elle n'est pas indépendante, mais les conditions principales par lesquelles Paul commence au début, ce sont des conditions morales. C'est l'humilité, c'est la douceur, c'est la longanimité, c'est le support, c'est l'amour. C'est cela, c'est par cela que nous pourrons garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix et vivre cette unité du corps de Christ. Et cette unité de corps de Christ se décline ensuite par ces sept un seul. J'ai remarqué au détour qu'il n'y a pas de « il y a », donc il n'est pas question de trois cercles là-dedans. Prenez le texte original, c'est écrit ainsi. Donc un seul, un seul, un seul, un seul. Tout ce qui est commun à notre foi, notre commune foi, et qui fonde donc l'unité dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Un autre texte se trouve en Colossiens 3, versets 12 à 15, et va dans le même sens. On sait que les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens se répondent dans un bon nombre de leurs textes, où Paul dit « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant l'un l'autre, s'il a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps préside dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » On retrouve quasiment les mêmes termes que nous avons déjà vus en Éphésiens au chapitre 4. Donc, et avec ce rajout de la paix du Christ. Donc, en théorie, l'Église devrait être un havre de paix. Elle devrait être connue comme telle et non pas comme un lieu de dissension. Et donc, cette unité qui est déjà faite, que le Seigneur Jésus maintient par son esprit, eh bien, nous incline à la paix dans nos relations mutuelles. D'où l'importance de la condition initiale que je mentionnais tout à l'heure, d'aborder ce sujet dans un esprit paisible, ou sinon, on dit le contraire de ce qu'on est appelé à commenter. Paul continue à traiter le même sujet dans Éphésiens 4 et Colossiens 2. Je ne vais peut-être pas lire tous ces textes, parce que ça ne risquerait de nous faire déborder le format horaire que nous nous sommes fixés, mais juste peut-être pour signaler que dans ces deux textes, il est parlé du corps, la fin de Colossiens 2, duquel tout le corps, alimenté et bien uni ensemble par des jointures et des liens, croît de l'accroissement de Dieu. C'est une très belle image, un peu complexe, peut-être que le médecin la comprenne mieux que moi, mais c'est une image où on voit cette croissance qui nous émerveille quand on a des enfants et qu'on les voit grandir, se développer, avoir leur corps qui se développe, qui s'épanouit. Cette croissance collective harmonieuse et qui vit et qui se fait au travers d'interactions entre membres. Il y a besoin de ces courroies de transmission, ces jointures et ces liens. Alors, cette croissance se fait en s'appuyant sur la fermeté dans la doctrine. En Éphésiens 4, il est dit qu'on ne doit pas être ballotté ça et là. Pas d'instabilité, pas de pensée personnelle. Elle est centrée sur Christ. C'est de lui dont on tire cette capacité de croissance. Mais elle fonctionne aussi avec souplesse. Vous voulez parler de ces liens, de ces jointures, c'est, on pourrait dire, comme ces articulations qui font que, quand on a des articulations, on n'est pas raide comme un ventin, on a le corps qui peut avoir une certaine souplesse. Donc vous voyez, il y a toutes ces images-là qu'il faut laisser chanter à notre cœur et qui nous indiquent pourquoi Paul utilise cette image du corps. Ben justement parce que notre corps, il a une certaine souplesse et c'est la même souplesse qu'il voudrait nous voir vivre et dans laquelle il voudrait nous voir interagir au sein du corps de Christ. Un autre texte important, c'est Colossiens au chapitre 12. Alors, c'est un des textes fondateurs, clés de l'Église vue comme le corps de Christ. Et si vous voulez bien, je vais le diviser en au moins trois parties pour voir trois aspects différents de ce chapitre 12 d'un Corinthien. Peut-être le point clé, nous le trouvons au début, car de même que le corps est un et qu'il y a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, qu'ils soient plusieurs ou nombreux, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Pour rappeler, il n'y a plus ces distinctions dans l'Église. Et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dans 1 Corinthiens, Paul reprend l'image du corps, plutôt comme Éphésiens et postérieur à Corinthiens, on peut dire que c'est plutôt dans les Éphésiens qu'il le reprend, mais dans l'ordre que j'ai choisi, c'est 1 Corinthiens qui passe après. Et Paul prend l'image du corps, mais il apprend un peu différemment là, il n'y a pas exacte superposition. Pourquoi ? Dans l'Épître aux Éphésiens, on a vu la tête, c'est le Christ, et le corps, c'est nous, ses membres. Tandis que ici, dans l'Épître aux Corinthiens, le Christ, c'est tout le corps. C'est pour ça que dans la suite, Paul va parler de l'œil, va parler de l'oreille, qui sont à l'évidence dans la tête. Le Christ, il infuse tout le corps, des pieds à la tête. Donc c'est la même image, mais pas tout à fait la même. Et je pense qu'il faut être sensible et à ces subtilités de l'Écriture. C'est pas parce qu'il est parlé du corps ici que c'est exactement la même chose quand il est parlé du corps ailleurs. De la même manière, c'est pas parce qu'il est... Alors, on le sait bien pour certains symboles, l'eau peut être redevable d'une variété de significations très, très large. Et le corps, là, on voit bien, c'est pas tout à fait la même notion. Et le corps, c'est tout le monde. Nous avons tous été baptisés. Et à qui Paul s'adresse-t-il ? Il s'adresse à des Corinthiens, et j'ai mis en mauvais état. Des Corinthiens qui se disputent, qui ont des conduites sexuelles pas toujours recommandables, qui, etc., dont certains remettent en cause la résurrection. Tout cela, néanmoins, font partie du corps de Christ. Et ils demeurent dans le corps de Christ. Et ça, c'est très important, on le reverra dans la deuxième partie, ça a des conséquences très claires. Tout le monde fait partie du corps de Christ. Le corps est-il divisé ? La réponse, mais bien sûr que non. De sorte que le corps de Christ... Une fois qu'on est un vrai chrétien, sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, on n'en sort plus. Alors, il y a trois aspects du baptême que je ne détaillerai pas par manque de temps. On va passer à la deuxième partie du chapitre, où là, Paul évoque le fait que mon corps, il n'est pas que formé que d'yeux. Ce serait vraiment une vision atroce. Donc, que d'oreille. Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps », est-ce qu'à cause de cela, elle n'est pas du corps ? Si le corps tout entier était œil, où serait l'ouïe ? Et si tout était ouïe, où serait l'odorat ? Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps comme il l'a voulu. Or, si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Mais maintenant, les membres sont plusieurs, nombreux, mais le corps, un. Dans ce texte très fort, Paul utilise notre corps humain pour dire « mais voyez, à l'évidence, l'unité n'exclut pas la diversité. Au contraire. Et le corps de Christ, c'est cette magnifique image, Paul ne pouvait pas en trouver de plus belle, pour montrer cette unité dans la... cette diversité dans l'unité. Le fait que... Alors là, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui connaissent la chimie moléculaire bien mieux que moi, mais enfin, le nombre de composants de base, il n'est pas si nombreux que ça, si élevé que ça. Mais finalement, quand on étudie en biologie la cellule, les cellules, elles ont un noyau, elles ont une mitochondrie, elles ont, etc. C'est un peu tous la même chose. Mais néanmoins, ces cellules du corps contribuent à une variété d'organes, de fonctions extrêmement importantes. Et Paul insiste aussi sur la nécessité de tous les membres. C'est pas parce que moi ici je suis devant vous et que j'ai une position nécessairement un peu plus en avant que je suis plus important que telle sœur ou tel frère. C'est totalement faux. Et on sait bien que parfois on a des organes cachés, Paul le dit ici, qui sont vraiment totalement indispensables. Et si on ne les avait pas, on cesserait de vivre instantanément. À la fin de ce chapitre, Paul vient dans encore un autre aspect qui est important de souligner quant au corps de Christ. Il dit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. » C'est très important ce texte-là. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si je me suis cogné les... hier je m'étais... c'est pas grave du tout, mais je me suis déchiré un peu le doigt. J'ai dit « j'ai mal au doigt ». J'ai pas dit « mon doigt a mal ». J'ai pas dit « mon doigt a mal ». J'ai dit « j'ai mal au doigt ». Pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai mal. C'est sûr que c'est mon doigt, mais c'est moi. Mon doigt, c'est moi. Et c'est exactement ce que dit Paul. Si un membre souffre, tous souffrent. D'où l'importance de cette vie quotidienne partagée. Ce qui touche mon frère me touche aussi. Et cette unité qui correspond aussi à cette complémentarité. Et ses membres, chacun en particulier, l'individualité ne disparaît pas dans le corps, mais elle se vit de façon coordonnée les uns avec les autres. Romains 12 va revenir un peu sur ce même sujet, le présentant sous un angle un petit peu différent, en mettant l'accent sur le fait que nous sommes un seul corps en Christ, eh bien, ça se vit aussi dans ces dons de grâce, dans cette façon d'agir dans le corps. Et au début, il dit de ne pas avoir une pensée au-dessus de celle qu'il convient d'avoir. Donc, le fait que moi, j'appartienne au corps de Christ, nécessairement, signifie que je ne dois pas me croire tout seul, ou seul important, ou à contrario, sans importance. C'est le contexte du verset 3 de ce chapitre 12 de Romains. Mais avoir aussi conscience de la diversité des fonctions. Toi, tu fais mieux ça que moi, moi, je fais mieux ça que toi. Heureusement qu'on est ensemble à fonctionner dans l'Église et qu'on peut être complémentaires les uns aux autres. Donc, nous sommes unis, mais différents, non seulement dans la nature de notre rôle dans le corps, mais aussi dans la façon de l'exercer. Et en Romains 12, Paul met l'accent sur la façon dont on exerce le don. Donc, non seulement nos dons sont différents, mais le même don, le même type de don, on peut dire, sera exercé par l'un d'une manière, par l'autre d'une manière, et chaque fois, ça va contribuer à la complémentarité de l'ensemble. Un autre texte où il n'est pas directement question du corps, mais il est question de membres. C'est 1 Corinthiens 6, verset 15, et Éphésiens 4, verset 25. « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ?» Sous-entendu, font partie de ce corps de Christ dont vous êtes les membres. « Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?» Jamais de la vie, qu'ainsi n'advienne. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc là, dans ces textes, on n'a pas effectivement directement la mention du corps, mais parler des membres, ça suggère à l'évidence le corps. Et on a deux exigences. La première, c'est la sainteté dans la vie pratique personnelle, en particulier sexuelle. Le fait que je sois uni en un seul corps avec Jésus-Christ, ça fait que je ne vais pas faire n'importe quoi avec mon corps. Parce que si je faisais ça, vu que je suis uni en un seul corps avec Jésus-Christ, c'est comme si j'unissais mon corps pour en faire les membres d'une prostituée, dit Paul. La deuxième exigence, c'est une exigence de vérité. Première, de sainteté, la deuxième, de vérité dans la pratique communautaire, en particulier dans les paroles. Si je suis membre du même corps que mon frère, je ne vais pas lui raconter des cracks, parce que ça ne se fait pas, parce qu'on est trop liés pour que ça puisse être tolérable. Le dernier texte, oui c'est le dernier, c'est 1 Corinthiens 10, versets 15 à 17, où Paul évoque dans un développement sur les viandes sacrifiées aux idoles, il évoque incidemment le sujet de la scène, du repas du Seigneur, et il dit « Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ ?» Et c'est le constat que nous faisons le dimanche quand nous participons au seul pain, de cet acte symbolique, mais que nous faisons collectivement, de prendre un seul pain, de le partager. Alors, peut-être que les uns et les autres, nous venons de contextes ecclésiastiques un peu différents, mais pour ma part, j'aime bien voir, ce qui ne se fait pas forcément partout, le pain entier qui est ensuite divisé. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que ça me permet, plutôt que les morceaux qui sont déjà préparés dans une corbeille, c'est peut-être plus pratique, ça va plus vite, mais il me semble qu'on perd un petit peu cette symbolique de l'unité, on voit un seul pain, on le partage, et cette unité est distribuée ensuite. Vous voyez, la force, me semble-t-il. Alors, on n'est pas obligé de rappeler ça tous les dimanches, il y a certains dimanches où peut-être le pain nous rappellera essentiellement le corps du Seigneur Jésus, son corps physique qu'il a donné sur la croix, mais néanmoins il y a cette pensée qui est également présente, de ce corps de Christ que nous constituons aujourd'hui, et qui montre qu'aussi ce pain il représente quelque chose de beaucoup plus large que les quelques unités ou quelques dizaines de chrétiens qui se retrouvent dans une même pièce pour partager ce pain. Et donc c'est un point intéressant que nous pouvons garder à notre cœur. Donc, si on récapitule la première partie, que nous présente vivre le corps de Christ, c'est quoi ? C'est d'abord reconnaître qu'il est Seigneur et que c'est lui la tête qui dirige. On dit bien, quelqu'un, il est à la tête d'une entreprise. Eh bien, le Seigneur, il est à la tête de l'Église. De sorte que ici, celui qui commande, ce n'est pas le frère un tel, ce n'est pas le pasteur un tel, c'est Jésus-Christ. Il est la tête. Deuxièmement, vivre le corps de Christ, c'est aussi considérer l'unité de tous les croyants sur ces deux images, à la fois ceux qui vivent, tous les chrétiens de tous les temps, et aussi tous les chrétiens vivant à un moment. C'est plutôt les aspects qu'on trouve en Éphésiens et 1 Corinthiens, comme je le mettais. Vivre le corps de Christ, c'est aussi chercher cette croissance harmonieuse. C'est aussi ne pas faire d'exclusion. On a vu que le corps, c'était cet homme nouveau qui était formé de personnes de race, d'origine, de culture, de classe. Ça nous montre que peut-être une église qui serait une église ethnique, on peut comprendre que c'est pratique, mais c'est pas directement la pensée de Dieu. Au contraire, on est heureux d'avoir une diversité sociale, socioculturelle aussi dans nos églises. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir à cœur. Pas faire une église d'intello, une église de riches, une église de pauvres. Ensuite, fonctionner en laissant à chacun la possibilité d'exprimer son don. Chacun, y compris soi. Chacun doit pouvoir apporter quelque chose dans l'Église de Jésus-Christ. Respecter la diversité et la complémentarité des membres. Prendre soin les uns des autres dans la vie locale. Chercher la sainteté dans la vie pratique. Et avoir des relations entre chrétiens qui soient paisibles et vraies, comme on l'a vu aussi à la fin. Donc, quand on dit l'unité du corps de Christ, comment la réaliser et la vivre aujourd'hui? Que nous disent les textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pardon? Eh bien, ils nous disent ça. Et je ne suis pas certain, en tout cas pour ma part, quand on parlait du corps de Christ et de l'unité du corps de Christ et du terrain de l'unité du corps de Christ, certains comprendront à ce à quoi je fais allusion, eh bien, spontanément, c'est pas forcément à tous ces aspects-là qu'on pensait instantanément. Et pourtant, il me semble que c'est directement ce qui se dégage des textes du Nouveau Testament. De sorte que vivre le corps de Christ, c'est d'abord et avant tout ça, ça, ça. Ces 9 points mentionnés. Alors, avant de faire la pause, essayons de voir quelques implications immédiates. Le corps de Christ, est-ce qu'il est formé d'assemblées ou de personnes? Ah, ça c'est pas une question qui est simplement théorique. On pourrait dire, est-ce que le corps de Christ, il est formé, là, vous voyez, d'un certain nombre d'assemblées, puis il y a des gens qui sont tout seuls, voilà, puis il y en a qui sont là, ou est-ce que c'est formé de personnes? Repasser les textes, et il ne me semble pas qu'on voit le corps de Christ formé d'assemblées. Et même à Corinthe, 1 Corinthiens 12, verset 27, quand Paul écrit, il dit aux Corinthiens, vous êtes corps de Christ. Vous êtes, vous, à Corinthe. Ben, pourtant, il y avait des chrétiens ailleurs qu'à Corinthe. Il y en avait à Éphèse, Paul écrivait d'Éphèse, il y en avait bien à Éphèse. Oui, bien sûr, mais à Corinthe, il fonctionnait comme un modèle réduit, si on peut dire, comme une représentation du corps de Christ. Mais il n'était pas une partie du corps de Christ. Et ça aussi, ça va avoir des implications importantes. De sorte que l'Église, vue comme corps de Christ, est avant tout formée de personnes. Chaque membre est en relation individuelle et directe avec la tête. Et excusez, c'est 1 Corinthiens 12, une coquille. Donc le corps se concrétise parfois dans un endroit donné. Et l'absence d'article montre qu'une assemblée n'est pas le corps, mais une modalité pour le rendre visible ici et maintenant. Alors c'est vrai qu'il existe des chrétiens qui ne se rattachent à aucune assemblée. Est-ce que pour autant ils ne sont pas membres du corps de Christ? Mais bien sûr que si. C'est très triste d'ailleurs, hein, qu'ils restent tout seuls chez eux. Mais néanmoins, ils sont membres du corps de Christ. Est-ce qu'une assemblée, ça n'arrive pas qu'elle se divise? Hélas oui, une église peut se diviser. Pour autant, le corps reste un. La discipline, qu'est-ce qu'elle fait quand on est obligé de discipliner un chrétien qui ne marche pas selon Dieu? Eh bien, elle ôte, elle met dehors de la communion pratique dans une église. Mais un vrai chrétien ne peut pas être ôté du corps. On a vu, c'est aussi certain que le salut. Une seule foi, un seul baptême, un seul corps, un seul esprit. Sinon, ça veut dire que Dieu pourrait lui retirer l'Esprit Saint. Donc, il y a, de ce point de vue-là, le corps de Christ est formé de personnes et pas d'assemblées. Et ça a des conséquences pratiques importantes sur la réception. Par exemple, tout membre du corps ne peut pas être automatiquement reçu. Mais ça, c'est un autre sujet, même si on le touchera. Sur l'uniformisation des sexes, comme membre du corps, les hommes et les femmes, ils ont exactement la même dignité. Par contre, dans l'Église, ils ont parfois des rôles différents. Sur l'influence sur les autres assemblées, notre première responsabilité comme assemblée est locale. Le Seigneur nourrit les autres assemblées. Mais Dieu est un Dieu de paix sur toutes les assemblées. Mais ça, c'est un autre sujet aussi. et sur l'influence des autres assemblées. Rejeter une décision fautive, ce n'est pas rejeter, à la fois en doctrine ou en pratique, l'unité du seul corps de Christ. Parce qu'elle est bien au-delà de nos décisions qui peuvent être plus ou moins bonnes. L'unité du corps de Christ, ce n'est pas ça. Donc, point important, me semble-t-il, nulle part, je ne trouve, dans le Nouveau Testament, de sous-corps d'assemblée en communion. Ça ne veut pas dire que ce sujet-là n'existe pas, qu'il n'est pas à traiter, on en parlera dans la deuxième partie, mais je ne le trouve pas mis sous cette forme-là. Encore une deuxième implication, puis après on fera bientôt la pause. Le corps de Christ, est-ce que c'est une organisation ou un organisme? Si Paul utilise cette expression de corps de Christ, c'est bien pour montrer que c'est avant tout un organisme. Une organisation, non. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul chef, une seule tête, Christ, dont tous dépendent. Donc il n'y a pas besoin d'une hiérarchie. Cette église vue comme corps de Christ fait que chacun finalement, je ne sais pas, on pourrait prendre devant Edouard, je ne vais pas oser, mais les neurones, on est tous reliés directement à la tête. On est tous reliés directement à la tête. L'Église, ce n'est pas une armée avec les caporaux, les brigadiers, les majors, les lieutenants, les colonels, les généraux. Non, ça ne marche pas comme ça. Surtout quand on la regarde comme vue, comme corps de Christ. Alors, c'est un organisme avec cette image qui met l'accent sur la complémentarité, la souplesse, le renouvellement, la capacité d'adaptation. Mais néanmoins, une charpente est nécessaire. On n'est pas des mollusques. Quand Paul compare l'Église au corps humain, c'est le corps humain, il a la colonne vertébrale, on a des os aussi qui nous permettent, le squelette qui nous permettent de tenir. On n'est pas des ectoplasmes. Donc, on voit bien que même dans cette image-là, on a l'idée que l'Église est un organisme, mais pour autant, il n'est pas désorganisé. Et est-ce qu'il y a quelque chose de mieux organisé que le corps de Christ? Donc ça permet de tuer un peu le vieux débat, de dire est-ce qu'il faut une organisation ou organisme. Oui, organisme, mais pas désorganisé, et de sorte que la même manière que nos cellules sont organisées, que notre corps est organisé, eh bien, l'un peut aller avec l'autre. Mais ce n'est pas purement une organisation. Et avant de faire la pause, j'aimerais terminer sur ce point-là, le corps de Christ, centré sur le corps ou centré sur Christ. Nous avons vu dans les premiers textes, Éphésiens 1, Colossiens 1, que ce que la parole met en évidence, c'est la tête. La tête est plus importante que le corps. Et il nous est demandé de tenir ferme le chef, la tête, le corps, et non pas le corps. Colossiens 2, verset 18. De sorte que donner au corps la gloire qui revient à la tête me semble être très grave. Et ça, c'est un avertissement que j'aimerais donner. Qu'on peut vivre, pour qui nous vivons? Est-ce que nous vivons pour Christ ou pour l'Église? Où c'est que nous trouvons notre identité? Est-ce que mon identité, elle est dans le groupe, dans l'organisation, dans le mouvement d'Église auquel j'appartiens? Ou est-ce que mon identité, elle est en Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est mon sauveur personnel et que je le suis lié pour la vie éternelle. Est-ce que notre identité, elle est dans notre assemblée, dans notre service, notre ministère, dans nos relations fraternelles? Si je suis coupé de cela, est-ce que ma foi va disparaître? Est-ce qu'elle tient à cela, ma foi? Ou est-ce qu'elle tient à Jésus-Christ? Que sera demain? On ne le sait pas. Peut-être qu'on se retrouvera tout seul. Il y a des chrétiens qui vivent leur foi tout seuls. C'est très dur pour eux. Mais, ou qui sont appelés à vivre dans un autre pays, ou dans un tout autre contexte, ou avec d'autres pratiques ecclésiastiques, ou avec d'autres relations, ou avec un service qui est totalement différent. Est-ce que ça va me déstabiliser, ou est-ce que, au contraire, ma foi est ancrée dans la tête en Jésus-Christ? Encore une autre question. Aimer l'Assemblée, avoir à cœur les intérêts du Seigneur dans son Assemblée. Ouais, je connais mes classiques. Qu'est-ce que c'est? C'est un concept? Comment cela se vit-il? Eh bien, aimer l'Assemblée, c'est aimer les personnes, c'est aimer leur croissance en Jésus-Christ, c'est cela. Alors, bien entendu, on peut avoir le spleen des jours passés où les choses étaient peut-être un peu plus carrées, un peu moins. Mais je dis, faisant attention à l'ecclésiolatrie, où on idolâtre l'Assemblée. Et sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on s'en rende compte finalement, l'assemblée, elle devient tellement importante, les questions d'assemblée, ça devient tellement, tellement important que ça en vient à envahir notre vie de foi et à l'étouffer. Alors que d'abord, notre vie chrétienne, me semble-t-il, doit être centrée sur Jésus-Christ. L'Église, les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. L'Église restera la forme sous laquelle nous serons appelés à vivre l'Église de Jésus-Christ sur la terre avant que le Seigneur la reprenne. Cette forme-là, elle peut changer, elle peut évoluer. Mais tant qu'elle est liée à Jésus-Christ, eh bien elle demeure, et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous.